up.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Content de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, média et culture au sens large. Aujourd'hui, les nouveautés rock et les sorties cinéma de demain. Vous retrouverez évidemment Hélène Manarino et son portrait inattendu, Bertrand Chameroy à l'écran de veille, puis Eva Rock pour son zapping du lendemain. Notre info média, ce sera autour du magazine Science et Vie, qui tente de se remettre d'une crise interne. Après son rachat par le groupe de presse Reworld Media, la quasi-totalité de la rédaction a démissionné pour fonder un magazine concurrent. À Science et Vie, un nouveau rédacteur en chef a été nommé, avec la lourde tâche de remonter les ventes et l'image. Thomas Cavaillé-Foll, c'est de lui dont il s'agit. Il sera avec nous dans ce studio. Et puis nos invités, la journaliste et animatrice Marie Portolano. Elle a quitté Canal+ pour M6, où elle présente, notamment ce soir, le magazine 100% Euro autour du match France-Allemagne, avant de se lancer dans le divertissement avec de gros prime time et aussi les pâtissiers. C'est elle également qui a signé le doc « Je ne suis pas une salope, je suis journaliste », documentaire qui a provoqué un petit séisme dans le journaliste sportif ici en France et fait parler d'elle et de lui jusqu'au New York Times. Enfin, la chanteuse Joyce Jonathan, après le confinement, après un bébé, elle revient pour un nouveau single, Les Petites Jolies Choses, joli titre qui annonce un nouvel album. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, Culture Média, c'est parti. Et bonjour Louise Bernard.
Et bonjour Philippe Vandel.
Et bonjour Antoine Genton.
Salut Philippe, bonjour à tous.
Antoine, au sommaire de votre journal des médias.
Un film poignant, un documentaire diffusé sur France 5 ce soir, une nouvelle émission pour Cyril Ferraud et puis le lancement d'une plateforme faite pour les fans de faits divers et des coulisses de la justice.
Mais d'abord, les audiences avec vous Louise, qu'ont regardé les Français hier soir?
Le football, c'était le match Espagne-Suède sur TF1, match nul, mais 4 570 000 téléspectateurs devant, 22,7% de part d'audience, un bon score, un peu moins bon que vendredi dernier sur TF1, mais vendredi dernier c'était le lancement, alors il y a eu un petit engouement. On verra le score surtout d'M6 demain soir, enfin je vous le donnerai demain
ce plutôt, soir, voilà.
ce soir, demain matin.
On
s'embrouille avec tout
moi
ça.
Je parie que ça va dépasser les 10 millions, voilà. Je prends le pari.
On verra, parce qu'avec la réouverture des terrasses et tout, ça réduit le nombre de téléspectateurs. On verra bien, en tout cas ce sera leader sans doute. Deuxième, M6 avec le téléfilm Harcelé, on vous en avait parlé dans le journal des médias, c'était un téléfilm avec Claire Keim et Bruno Salomon, 2 320 000 téléspectateurs, 11,7% de part d'audience. C'est un score assez moyen pour un téléfilm. Ensuite, c'est France 3 avec Secret d'Histoire, Louis XV et Marie Lesinka, Tromperie à Versailles, 1 820 000 téléspectateurs devant Stéphane Bern, 9% de part d'audience. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est une émission qu'adore Clara Luciani. C'est un truc que j'ai appris dimanche soir en regardant l'émission de Laurent Delahousse.
Mais oui, elle a fait faire des t-shirts.
Exactement, voilà. Et puis, je vous donne quand même le score de France 2 qui est 4e avec la fin de sa série britannique Le Doute, qui n'aura décidément pas vraiment marché. 1 680 000 téléspectateurs seulement, 8,5% de part d'audience. Et puis Arte, au-dessus du million, grâce à un film, Rue des Prairies.
Culture Média.
Le journal des médias maintenant avec vous Antoine Genton. À la une, une fois n'est pas coutume, le focus programme du jour, c'est un documentaire bouleversant.
Ouais, c'est celui que diffuse France 5 ce soir. Dessine-moi un visage, c'est le titre. Un documentaire qui suit le quotidien de quatre personnes. Un petit garçon, Gabriel, deux adolescentes, Clara et Ninon, et un jeune adulte, Thomas. Ils ont tous subi, et pour certains subissent encore, des opérations du visage suite à un accident ou à des malformations de naissance. Des interventions chirurgicales nombreuses qui transforment peu à peu leur visage. Ils doivent faire preuve de patience tout en affrontant le regard des autres. Ils le font avec une force incroyable. C'est ce que nous explique Maud Vasquez, la réalisatrice du documentaire.
Ils ont une capacité, une force incroyable parce qu'ils ont déjà dû apprendre à gérer l'hôpital, à y aller beaucoup, à accepter les soins, accepter la douleur, accepter les interventions, le changement de visage, se réadapter à son nouveau visage à chaque fois aussi. Parce que comme ils changent à chaque fois, à chaque opération, bah, il faut se re-regarder dans le miroir et se réaccepter de nouveau. Donc ça, ça leur a créé une force assez extraordinaire et une capacité d'adaptation à soi. Et ensuite, parce qu'ils sont beaucoup absents à l'école, et du coup, il faut aussi réussir, quand on revient à l'école, à se réintégrer, à rattraper les cours, à faire tout ça. Donc ça développe une capacité aussi très d'autonomie et d'indépendance, en fait.
Et tout cela se voit et s'entend dans ce documentaire. Gabriel, Ninon, Clara et Thomas se confient sans problème face à la caméra. Ils racontent leur rapport à leur visage, le harcèlement qu'ils ont dû subir parfois aussi. Ils se sont confiés d'autant plus facilement que la réalisatrice est la fille de la professeure Marie-Paul Vasquez, celle qui a créé le service de chirurgie maxillofaciale à l'hôpital Necker à Paris il y a plus de 20 ans. Alors petite, Maude Vasquez arpentait les couloirs de l'hôpital et jouait avec ses enfants aux visages différents.
Je trouvais qu'ils avaient parfois des visages qui me faisaient peur. Et en même temps, je voyais qu'ils fonctionnaient comme moi, en fait. On riait ensemble, on jouait des mêmes jeux. Et finalement, je pense que c'est quelque chose que ma mère m'a transmis un petit peu comme ça, par un langage non-verbal, c'est que j'ai eu vraiment envie d'aller vers eux et d'essayer de les comprendre. Et en fait, je pense qu'il y aurait vraiment quelque chose à faire, une éducation à la différence. Je pense vraiment qu'à l'école, on devrait intégrer ça. Parce que là où j'ai été étonnée quand j'ai rencontré les enfants, c'est qu'il y a les enfants qui parfois peuvent être assez violents entre eux, mais il y a aussi les adultes en fait, qui les regardaient parfois avec méprise et parfois même en les insultant ou en cachant les yeux de leurs propres enfants pour ne pas qu'ils voient ces visages.
Maude Vasquez, co-réalisatrice du documentaire « Dessine-moi un visage » avec Caroline Darocchi. Documentaire diffusé ce soir à 20h50 sur France 5. Il sera suivi d'un débat animé par Marina Carrère-Dancos.
Un nouveau présentateur pour l'émission Spectaculaire sur France 2.
Nouveau co-présentateur, Cyril Ferraud, c'est lui qui co-animera donc cette émission de divertissement à la rentrée. Une information de nos confrères de Pure Média. Il le fera avec celui qu'il a présenté seul l'an dernier, Jean-Marc Généreux. Un binôme inédit pour ce programme qui propose des numéros de cirque et de magie, mais aussi des chansons et de la danse. Un programme qui va d'ailleurs légèrement évoluer. Il y aura une dimension ludique désormais. Des invités assisteront à ces numéros sur lesquels, une fois terminés, ils seront interrogés. En cas de bonne réponse, ils pourront accumuler des gains qu'ils reverseront alors à une association de leur choix. Le tournage doit avoir lieu cet été.
La fin d'un épisode, pas de tous, mais la fin d'un épisode dans le feuilleton des droits du football dont nous parlions encore hier.
Oui, la fin de l'épisode Mediapro. Ça y est, c'est fini. Le groupe sino-espagnol, évincé pour cause d'impayés, a fini de payer ce qu'il devait à la Ligue de football professionnel. Dernier versement de 15,5 millions d'euros. Au total, il lui a versé 100 millions d'euros pour éviter que la Ligue ne le poursuive en justice après avoir fait défaut en cours de saison. 100 millions, une somme sur laquelle s'étaient entendus les deux parties dans le cadre d'un protocole d'accord.
Dans l'actualité des médias encore, le lancement aujourd'hui d'une nouvelle plateforme.
Scène de crime TV, c'est son nom, un Netflix du fait divers, comme l'a défini le Figaro ce matin. Une plateforme lancée et financée par Arnaud Poivre d'Arvor et sa société Far West Productions. Vous pourrez y trouver des documentaires sur les coulisses de la justice ou sur celles de la police scientifique, des témoignages aussi. En tout, 60 à 70 heures de programme pour commencer, dont 20% de productions originales. Tout cela pour 5,99€ par mois.
Et le retour annoncé de la série The Morning Show.
Série phare de la plateforme Apple Plus sur les coulisses d'une matinale d'une chaîne américaine. La deuxième saison sera diffusée dans 3 mois à partir du 17 septembre. L'annonce en a été faite hier. Le casting ne change pas. Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, toutes deux coproductrices également. Steve Carell sera là aussi. Une nouveauté toutefois, l'arrivée de Juliana Margulies, vue entre autres dans deux séries très populaires, je suis sûr que vous vous en souvenez, Urgence et The Good Wife.
Et moi je me souviens de lui, la mort d'un grand dessinateur qui avait également été patron de journal.
Nikita Mandrika, le créateur du Concombre Masqué Grand Prix de la ville d'Angoulême en 1994, un auteur à l'esprit libre, il était l'un des fondateurs de l'Écho des Savanes en 1972 avec Claire Bretéché et Gottlieb, un magazine de bande dessinée que Mandrika a dirigé pendant 7 ans. Il s'est éteint avant-hier, il avait 80 ans.
Toutes ces infos, vous pouvez les retrouver sur la newsletter média d'Europe 1. Elle est gratuite. Inscription sur europe1.fr. Merci beaucoup Antoine Janton. Merci beaucoup Louise Bernard. On vous retrouve demain Antoine pour le score et Louise Bernard pour les audiences du foot. Dans un instant, notre info média du jour, on va s'intéresser à la nouvelle formule de la revue Science et Vie. Quelques mois après le départ de la quasi-totalité de la rédaction, on en parle avec son nouveau rédacteur en chef, Thomas Cavaillé-Foll. A tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Il a beau avoir près de 110 ans, Science et Vie n'avait pas connu de crise aussi sévère depuis sa création en 1913. Crise éditoriale suscitée par le rachat du titre par le groupe Reworld Media, crise au cours de laquelle son rédacteur en chef a démissionné, c'était l'an dernier, suivi en début d'année par la quasi-totalité de la rédaction. Quelques journalistes sont restés pour tenter de tourner la page. Ils ont continué à produire ce mensuel, le plus diffusé en France. À leur tête, un nouveau rédacteur en chef qui travaille à une nouvelle formule du magazine. Bonjour Thomas Cavaillé-Foll.
Bonjour.
C'est donc vous, le nouveau rédacteur en chef de Science et Vie, Ascension Éclair. Il y a un an et demi, vous n'aviez aucune responsabilité au sein de la rédaction. Vous êtes devenu chef de rubrique en avril 2020, après le rachat par Reworld Media, puis rédacteur chef adjoint après le départ de la quasi-totalité de la rédaction, et donc rédacteur en chef au début du mois. Question simple, quelle est votre feuille de route ? Déjà, c'est ressouder un peu la rédaction, forcément, parce que nous allons recruter. Du coup, nous sommes en train de recruter deux adjoints. Intégrer de plus en plus nos journalistes pigistes, qui sont très expérimentés, qui étaient, mine de rien, jusqu'ici, mis un peu à l'écart avec cette rédaction qui était très, très soudée. Et puis, repenser une nouvelle formule à l'automne. Là.
Vous dites vouloir donner un petit coup de fouet au magazine. Qu'est-ce que ça signifie, concrètement, un petit coup de fouet ?
À la lecture du magazine, moi je trouve qu'il y a des choses qui marchent très très bien, c'est un excellent magazine, les dossiers, les actus, il y a des choses qui marchent très bien et d'autres qui sont pour l'instant un peu, je trouve, qui ne marchent pas, tout
par
simplement.
Par exemple
je ne sais pas, on a quelques pages en sciences et sociétés, je trouve qui ne laissent pas assez de place, on a notamment une rubrique qui s'appelle En débat, pour moi elle est trop faible celle-ci. Aussi, nous réfléchissons à la possibilité de plus ouvrir quelques pages ou quelques rubriques au monde scientifique directement, intégrer, c'est pour ça que nous avons créé le comité scientifique de Reworld Media.
On va
c'est
en parler pour... après du comité
Bien
scientifique,
sûr.
Ouais.
Écoutez, c'est en pleine réflexion en fait, nous ferons la surprise en automne, on ne va pas toucher au cœur de Science et Vie parce que ce magazine marche bien, mais ça fait quand même 4 ans maintenant que cette formule existe,
ouais.
C'est un long temps.
Vous avez dit que le magazine était vieillissant, c'était dans la correspondance de la presse le 4 juin dernier, ça veut dire quoi dans le détail vieillissant concrètement ?
Je trouvais que moi...
Vous êtes jeune, d'un mot, vous avez quel âge ?
J'ai 33 ans.
Ce qui est quand même très très jeune pour un rédacteur en chef d'un magazine de cette importance,
tout
même pour un rédacteur en chef tout court déjà.
Bien sûr, oui.
Ouais. Vieillissant dans le détail, ça veut dire quoi ?
Je trouvais qu'on est... On avait tendance à être très entre soi et de faire un magazine un peu pour nous avec l'ancienne équipe. Il y avait effectivement beaucoup de... On challengeait beaucoup nos propres sujets et j'avais l'impression... moi, quand je parlais à ma génération de Science et Vie, tout le monde me disait « Ah, j'adore Science et Vie, mais je le lis pas,
ouais.
parce qu'il est un peu barbant.
Ouais. »
Et je trouvais que, effectivement, à trop se challenger, à trop se fermer, comme l'était un peu la rédaction avant, on avait tendance à faire un magazine pour nous-mêmes.
Quelles seront alors, justement, les grandes lignes de la prochaine formule ?
Ça, je ne peux pas vous en parler tout de suite, je suis désolé. On est en train de réfléchir.
Vous êtes en train de travailler, vous le gardez pour vous, vous savez déjà, et vous ne voulez pas le dire, ou est-ce qu'au contraire, c'est pas encore totalement arrêté ?
C'est pas encore totalement arrêté, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des personnes qui vont nous rejoindre très bientôt, et que j'aimerais intégrer, bien entendu, dans cette aventure. Donc, on est en train d'avoir plein d'idées, et puis de travailler dessus.
Alors, on va parler d'ouverture. Dans le dernier numéro, celui de juin, il y a des sujets pointus. Un dossier sur les rétrovirus endogènes pour soigner les maladies neurologiques. Un autre sur le nom magique de l'univers, par exemple. Et puis, il y a aussi des sujets plus légers, traités dans de courts articles. Par exemple, produits laitiers, faut-il s'en méfier ? Ou encore, l'exercice durant la grossesse, c'est aussi bon pour le bébé, je ferme les guillemets, sont des sujets qu'on s'attendrait à trouver davantage dans des news magazines ou dans des magazines féminins, sans que ces termes soient péjoratifs, mais pas dans un magazine scientifique. Est-ce que vous allez les garder dans la nouvelle formule ?
Alors ça, je vous arrête tout de suite, ça a toujours été dans Science et Vie, ces sujets-là.
Ouais.
Vous parlez probablement de la dernière rubrique,
oui.
De « C'est les bons à savoir ». Non, ce sont des sujets de la vie quotidienne qui ont toujours eu leur place à Science et Vie, et je pense qu'ils n'ont pas vocation à être enlevés, non ?
Alors, vous nous parliez d'un comité scientifique. Est-ce que vous pouvez nous le décrire ? D'abord, quel est son but et de qui sera-t-il composé ?
Alors, on sait déjà de qui il est composé. Il y a plusieurs personnes, une dizaine, une quinzaine même de scientifiques et d'ingénieurs qui viennent de partout, enfin de tous les milieux en fait. La première réunion a eu lieu jeudi dernier. Nous avons passé l'après-midi à discuter avec ces acteurs du monde de la recherche.
Alors j'ai quelques noms, Jean-François Clairvoy, l'ancien astronaute, Philippe Charlier, médiatique, médecin légiste, qui a co-présenté notamment le magazine de la santé, ou Marie-Lou Patou-Matisse qui est préhistorienne.
Marc-André Sellos qui est...
Quel sera leur rôle alors dans le magazine ?
Eh bien, en fait, ils n'ont pas forcément un rôle dans le magazine, pour l'instant en tout cas.
Ils ont un rôle d'image alors ?
Non, pas du tout. En fait, c'est pas ce comité. L'idée a germé bien avant tous les récents événements. Donc, c'est pas un rôle d'image. On avait besoin en fait de moderniser un peu la relation que Science et Vie a depuis plus d'une centaine d'années avec le monde de la recherche.
Ouais.
Généralement,
ce qu'on faisait, c'était prendre notre téléphone et appeler tel chercheur pour tel domaine, pour tel sujet. Nous, on avait envie de prendre un peu de recul là-dessus et de réfléchir un peu à l'importance de la vulgarisation et aussi de réfléchir à des grands sujets avec eux pour faire émerger peut-être des articles insoupçonnés ou des angles. Et ça a été très fructueux. On a passé une très bonne après-midi et il est sorti effectivement des idées ici et là pour remplir notre magazine, ce qui va être super.
Votre objectif, c'est lequel ? C'est redresser l'image, c'est redresser les ventes, c'est les deux ?
Bah, l'image, elle n'a pas tant souffert que ça, moi, je trouve. En fait, elle n'a pas besoin de... On n'a pas besoin de remettre un peu d'image, puisque c'est encore les mêmes journalistes qui écrivent dans Science et Vie. Non, moi, j'ai envie de
vous
continuer.
Vous avez quand même été attaqué par plus d'une centaine de scientifiques et d'universitaires. Je me souviens de cette lettre ouverte. Oui, enfin, reproché, je vais retrouver exactement ce qui avait été dit, parce que je ne l'ai pas. Il faut que je trouve ma page exactement, mais il y a eu quand même il y a quand même un déficit d'image.
Écoutez, moi je pense que il n'y a pas lieu d'avoir un déficit d'image, vu que c'est encore les mêmes journalistes scientifiques qui remplissent nos pages. Le travail, il est toujours fait avec passion et rigueur. Ouais. Donc c'est dans les kiosques et dans les pages que notre image va se jouer.
Il y avait quand même un collectif de 300 universitaires, je viens de retrouver mes notes, de 300 universitaires et scientifiques qui avaient publié une tribune dans Le Monde en décembre dernier.
Oui, mais qui disait ne touchez pas à Science et Vie, et Science et Vie va très bien. Donc finalement...
Oui, mais il a été touché.
Pas plus que d'autres rédactions n'ont été touchées. Je veux dire, c'est la vie courante et normale d'un journal que d'avoir de temps en temps des renouvellements de la rédaction. Ouais. C'est même sain, je trouve, dans l'histoire d'un journal. Si rien ne bouge, en fait, un journal meurt.
Les ventes... À combien sont-elles et quel objectif visez-vous ?
Alors, les objectifs, c'est toujours mieux.
Ouais,
c'est mais les ventes, au numéro en kiosque, on est à 25 000, je crois, le mois dernier, ce qui est un très bon score.
Mmh. 140 000 abonnés, c'est ça ?
Un peu plus, je crois, même maintenant, et en croissance.
On continue de parler de Science et Vie. Nous sommes avec son nouveau rédacteur en chef, Thomas Cavaillé-Foll. 33 ans seulement, je le dis, parce que c'est assez remarquable. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Thomas Cavaillé-Foll, il est le nouveau rédacteur en chef de la revue Science et Vie, le premier magazine mensuel en France et l'un des plus anciens aussi. Il a été fondé en 1913. L'un des sujets qui a provoqué la crise qu'a connue le magazine l'an dernier et en début d'année, c'est la gestion de la version numérique du site scienceetvie.com. C'est évident que vous avez un site internet. Deux journalistes scientifiques animaient ce site. Ils ont été remplacés à la fin de l'été dernier par trois chargés de contenu, le terme est important, ce qui a eu pour conséquence la publication de fausses informations. Exemple, le site a publié un article affirmant que la vitamine D protégerait du Covid, ce qui était faux, ce qui est faux. Les journalistes scientifiques qui étaient encore présents dans la rédaction du magazine papier l'ont démontré et l'ont écrit. Est-ce que vous, journaliste, vous êtes à l'aise avec cette stratégie éditoriale, confier le site internet non pas à des journalistes assermentés, patentés, mais des chargés de contenu?
Alors le site internet est donc confié à des journalistes. Hein, c'est Karine Zagaroli, donc ma directrice de la rédaction, qui a l'œil dessus. Mmh. Après,
c'est pas ce que disait Pascal Chevalier en 2018, justement, d'où le schisme et d'où le hiatus.
En fait, c'est effectivement les chargés de contenu n'ont pas pour vocation d'écrire des tonnes d'articles. Ils ont pour vocation de mettre en valeur en fait les articles qui sont déjà du magazine.
La question n'est pas d'en écrire des tonnes. La question est d'écrire sur le site internet d'une revue aussi prestigieuse avec une marque aussi prestigieuse que Science et Vie, une information qui est fausse, à savoir la vitamine D protège du Covid.
Alors là, je suis pas d'accord avec vous. En fait, c'était au conditionnel et c'était cette information, je crois, en fait, c'était juste dire qu'il y avait une étude qui estimait ou qui disait qu'il y avait potentiellement un lien entre la carence entre vitamine D et les formes graves du Covid. Ça a été fait et repris dans la plupart des médias scientifiques qui sont faits par des journalistes. Et moi, je suis très content qu'on puisse... La science avance à tâtons, en fait. Donc, qu'on puisse se faire l'écho de telle étude et puis revenir ensuite dessus avec plus de force. Et c'est aussi ça que permet le site internet, réagir vite, mais ensuite faire une enquête approfondie pour voir si ça tenait coup ou pas.
Donc, vous ne regrettez pas cet épisode et le fait de l'écrire sur le site et le fait de corriger l'information dans le magazine papier.
En fait, j'étais pas moi dans la rédaction en chef à cette époque, donc cet épisode s'est passé. Je n'ai pas à dire que.
Mais
que je
regrette, vous pouvez avoir un avis.
J'espère.
Je vais dire
que...
les choses différemment. Si c'était à refaire, maintenant que vous êtes le patron, est-ce que vous le referiez ?
Je ne sais pas. Je peux pas vous répondre. Parce que donner de l'écho à une étude en particulier, ça ne me dérange pas. Non, non. ça ne me dérange pas. Je trouve que c'est bizarre de cristalliser le débat sur ce point-là en particulier. En fait.
Ben, c'est comme ça que c'est parti.
Ouais,
tout était parti de là. C'est pas, nous, on est une émission média, on ne fabrique pas les événements.
Bien
c'est
sûr.
Comme ça que ça a été perçu en interne par la rédaction et nous nous sommes fait écho de cette inquiétude de la rédac.
Oui, ça, c'est ce qui a été dit. Après, moi, ça ne me dérange pas non, de pouvoir justement corriger nos propres en fait, erreurs. C'est, ça ne me dérange pas.
Le nombre de cartes de presse, autrement dit, le nombre de journalistes professionnels est passé de 340 à un peu moins de 150 dans les titres de presse rachetés par World Media il y a 2 ans, donc une baisse d'un peu plus de 50%. Est-ce que cela vous inquiète ?
Très franchement, moi, je regarde très peu autour de moi, à part mon propre magazine. Ça ne m'inquiète pas, non, je ne sais pas trop quoi répondre là-dessus. En tout cas, ce qui se passe dans mon magazine ne m'inquiète pas.
C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura, vous allez garder le même nombre de journalistes que celui qui était il y a un an ou 2 ans
ou moins,
une baisse de combien ?
Bah non, en fait, je ne pense pas, parce que vu qu'on va recruter de nouveaux pigistes, c'est des gens qui ont vocation à prendre part dans le journal et à réfléchir. Donc
effectif constant ?
Effectif constant.
Entre l'ancienne formule et la nouvelle formule que vous allez diriger vous-même ?
Il y aura un peu moins de... En interne, il y aura un peu moins de journalistes, oui.
Vous allez avoir donc un nouveau concurrent, Epsilon. Le premier numéro doit sortir la semaine prochaine. Il est réalisé par d'anciens de Science et Vie, qui sont aussi vos amis pour la plupart, des journalistes avec qui vous avez travaillé. Quelle est votre réaction anticipée à cette nouvelle parution ?
Je suis très excité, très content. En fait, ça montre que le marché marche bien, que le marché va bien et... je leur souhaite tout le bonheur possible. Moi, ça me dérange, je ne me sens pas, en tout cas, fragilisé ou apeuré face à cette nouvelle. Au contraire, c'est une super chose. Il va y avoir une belle émulation et ça va faire des articles meilleurs encore.
Merci beaucoup, Thomas Cavaillé-Folle. Je rappelle que vous êtes le nouveau rédacteur en chef de Science et Vie. Le numéro de juin est en vente, 4,90€, avec à la une un dossier sur les algorithmes. Peuvent-ils prévenir l'avenir ? Je ne sais pas s'ils savent ce qui va arriver. Ce qui va arriver dans Culture Média, c'est la journaliste Marie Portolano qui présente le magazine 100% Euro, qui sera ici dans ce studio avec vous, avec nous. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Marie Portolano.
Bonjour Philippe Vandel.
Plaisir de vous entendre ici dans Culture Média. Vous êtes journaliste et présentatrice. On vous connaît comme grande spécialiste de foot sur Bing, mais pas seulement. En mars, vous aviez quitté Canal+ pour M6, mais juste avant, vous aviez réalisé ce documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis journaliste » qui a provoqué une onde de choc dans le journalisme sportif et qui a connu un retentissement dans le monde entier. Je pèse mes mots. Mais vous voici donc sur M6 pour des divertissements, notamment un gros prime time en juin, on va en parler, mais aussi Le meilleur pâtissier, mais aussi... Votre actualité immédiate, Marie Portolano, c'est ce soir. Le magazine 100% Euro en 2 parties, avant et après le match France-Allemagne ou Allemagne-France, pas comme on dit. Prise d'antenne à 20h25. On y verra quoi ? Quel est le programme ?
Alors, on y verra de l'humeur, on y verra des résultats, on y verra des interviews. Voilà, normalement, tout le cocktail parfait pour une émission de foot sera dans 100% Euro ce soir. En avant-match, on sera surtout sur les enjeux et sur, évidemment, sur l'équipe de France, les compositions, etc. Et en après-match, ce sera donc les interviews en direct, les réactions d'après-match. Et on essaiera d'analyser la belle victoire de la France 4-0 face à l'Allemagne.
4-0 ? J'allais vous demander le score, vous m'avez précédé. Qui seront les consultants avec vous en plateau ?
Alors, on aura Alain Bogossian, donc champion du monde 98, qui nous accompagne. Julien Cazard, qui est connu dans le monde du foot pour son humeur et son humour.
Ouais.
Et notre invité exceptionnel ce soir, ce sera Tony Parker, le champion de NBA. Donc, on est ravis de l'avoir avec nous. C'est vraiment, ça va être un beau plateau.
L'Euro, ça représente quoi pour vous, Marie Portolano ?
Alors l'euro, je pense que ça représente comme pour moi, comme pour toute la France, là, cet euro-là, il fait du bien. En plus, je trouve que c'est drôle qu'il s'appelle l'euro 2020, alors ouais. Qu'on est en 2021. C'est comme si on nous rendait un petit peu de notre année volée,
mais exactement.
De notre année perdue.
Je vous pose la question parce que sur une vidéo du Huffington Post, vous donnez 6 bonnes raisons de suivre l'euro 2020 et la première raison m'a complètement scotché.
Première raison, pourquoi l'euro va être si important à suivre, c'est les bières en terrasse. Les bières en terrasse, les bières avec les potes.
C'est vraiment les bières en terrasse, la première raison.
Alors, en plus, sachez que du coup, je suis obligée de revenir sur cette réponse puisque j'ai appris par la suite que les terrasses n'avaient pas le droit de diffuser les matchs.
Mais oui.
Donc, je trouve ça tellement dommage. Mais bon, je comprends évidemment les conditions sanitaires. Donc, les bières avec les potes, non. Ce que je voulais dire, c'est que ce qui est important dans cet Euro, c'est de se retrouver.
Mais oui.
Et je pense que ça va faire du bien aux gens de regarder des matchs de l'équipe de France.
J'avais bien compris. Et samedi soir, c'était votre première. Vous avez regardé les audiences. Vous êtes contente de votre chiffre?
Alors, en fait, moi, comme c'est une nouveauté pour moi de regarder les audiences, je connais pas vraiment les attentes des chefs. Et d'ailleurs, je trouve ça super parce qu'ils m'en parlent absolument pas.
Ah, ils vous ont rien dit.
Non, ils m'ont pas demandé d'audience particulière. J'ai reçu un message de félicitations en me disant c'est très bien, 1 million pour une PS2, c'est parfait, donc ça me va.
PS2, ça veut dire deuxième partie de soirée.
Oui, pardon,
je peux vous assurer que vous allez battre votre record ce soir, donc on pourra le donner demain. Quelle différence entre votre approche sur M6 et ce que vous faisiez sur Canal+, notamment au CFC, le Canal Football Club? Ça sera moins technique?
Alors, ce sera moins technique forcément, puisque le public n'est pas le même. Le public de Canal+ est très exigeant dans les chiffres. Les gens qui viennent regarder les émissions de Canal sont des personnes qui sont vraiment spécialisées dans le foot. Là, c'est pas le cas. Donc, c'est assez agréable aussi. On pose des questions un peu plus grand public, on donne des chiffres un peu plus grand public, et c'est tout aussi enrichissant.
Et vous avez dit, il y a une nouveauté, c'est que j'ai le droit d'être chauvine.
Oui, mais c'est vrai, parce que moi, j'ai l'habitude de cacher mes préférences, ouais. Puisque sur le championnat, j'avais pas le droit. Là, je suis comme tout le monde, j'espère que la France va gagner.
Ouais. Mais ça vient pas, c'est pas constitutif d'M6, c'est constitutif du fait que c'est un match international. Donc vous avez le droit de dire, je suis pour la France, contrairement au championnat, vous pouvez pas dire si vous êtes pour Bordeaux, Toulouse ou Marseille. C'est ça
tout
l'idée.
Tout à fait. Normalement, je fais partie du grand public, ouais. Enfin tout le monde est pour la France quoi.
Il y a un ton sur votre plateau, j'ai regardé l'émission de samedi, c'était le 12, avec vous en plateau il y avait Alain Bogossian comme ce soir, Julien Cazard comme ce soir, pas de Tony Parker, c'était Rio Mavuba samedi, et on va entendre Julien Cazard qui donne son avis sur l'équipe d'Allemagne et son sélectionneur.
Je trouve qu'il y a du talent, mais je vois pas de certitude. Le fait de rappeler Müller, ben, je trouve pas que c'est une grande victoire pour le sélectionneur qui avait voulu faire un peu table basse du passé, comme dirait un footballeur. Je dirais pas son nom.
Qu'est-ce qu'il a dit faire table basse? Vous le savez ou pas?
Mais je crois que c'est Alain Bogossian, non?
Je sais pas, moi, mais ça m'a fait marrer. Table basse. Donc on voit bien qu'on est là aussi
non,
pour...
C'est peut-être Franck Ribéry, pardon.
Franck il me semblait. Ribéry. Et la roue tourne va tourner, c'est aussi Ribéry.
Et voilà, exactement.
On voit qu'il y a de l'humour, il y a de la bonne humeur. Alors, il faut dire qu'il n'y avait pas un enjeu considérable, puisque la France n'avait pas commencé, n'était pas entrée en lice. Parfois, il faut le dire aussi, c'est assez remarquable, c'est vous qui faites des interviews, Marie Portolano. Exemple, les deux latéraux de l'équipe de France, je dis ça pour les non-spécialistes, sont Benjamin Pavard et Lucas Hernandez. Ils jouent tous les deux au Bayern de Munich. Et vous leur avez écrit des questions que vous avez mises sur des fiches que chacun pose à l'autre. Exemple, c'est Pavard qui lance un défi à Lucas Hernandez.
Là, je vais te demander d'imiter Didier Deschamps.
Non. Non, je veux pas.
Non. Merci,
d'accord. Tu veux que je revienne plus à l'équipe de France ou quoi? Ok, vas-y.
Bon, les gars, on est ici avec la banane. Hein.
C'est encore plus savoureux quand on voit l'image, parce qu'il imite la banane de Didier Deschamps, enfin le geste qu'il fait. Et Marie Portolano, et si Didier Deschamps l'avait mal pris? Parce que là, il y a quelque chose qui change. Vous êtes à la fois journaliste, mais vous êtes aussi la chaîne officielle M6 de l'équipe de France avec TF1. Et vous ne pouvez pas vous permettre de froisser le staff de l'équipe de France.
Alors, pour être très honnête, j'ai rencontré donc plusieurs fois Didier Deschamps, notamment lors de l'annonce de la liste. C'est quelqu'un qui a énormément d'humour. Mmh. Donc vraiment, là, je vois pas comment il pourrait mal prendre ces joueurs qui, entre eux, pour rire, limitent un petit peu. Et encore, c'était pas méchant.
Ouais, là, c'était sans risque. Le 18 mai, puisque vous parlez d'Didier Deschamps, je vais rester sur ce sujet. Vous avez débuté sur M6 avec un entretien conjoint en compagnie de Nathalie Anetta pour TF1, du sélectionneur donc de l'équipe de France, Didier Deschamps. Et là, je vous cite, vous dites avoir vécu le moment le plus stressant de votre vie. Vous dites avoir été tétanisé. Pour quelle raison?
Parce que déjà, il y avait un enjeu pour moi, puisque c'était ma première apparition sur M6. Mmh. Il y avait un enjeu pour les chaînes, puisque c'était la première fois historiquement que TF1 et M6 diffusaient la même chose au même moment. Mmh. Donc forcément, il y avait un double enjeu. Et puis, voilà, le sélectionneur, l'annonce de la liste. En plus, j'avais cru comprendre que donc Karim Benzema allait revenir. Donc je savais que c'était un événement qui allait être beaucoup suivi. Et donc voilà, j'étais stressée, quoi.
Bon, tétanisé. Vous avez fait une confidence à Vosges Matin, vous voyez que je lis vraiment toute la presse, c'était le 8 juin. Vous avez dit, c'est la première fois que j'étais à 100% maîtresse de mes questions et de la manière de faire. C'est-à-dire qu'habituellement, il y avait un rédac-chef qui réécrivait vos questions ou qui vous donnait les siennes ?
Non, alors qu'il réécrivait pas. En revanche, on avait beaucoup de on discutait beaucoup sur.
C'était validé. Vos questions devaient être validées
sur Canal. Voilà. Enfin, elles étaient. Je suggérais mes questions et généralement elles étaient acceptées. Là, ce que j'ai trouvé super dans l'équipe de M6, c'est que ils ont fait complètement confiance à mon expertise. Donc ils m'ont dit, bah vas-y, fais ton interview. On la regardera ensemble et puis on verra si ça convient avec Nathalie Yaneta. Et en fait, on a été vraiment maîtresse de nos questions et c'était assez agréable.
Je trouve ça formidable, mais en creux, ça dit quelque chose, et je vais citer personne, et des chaînes où vous êtes passé, mais ça veut dire que pendant plus d'une dizaine d'années, on n'a pas fait confiance à votre expertise. Ce matin, Le Parisien vous consacre un article et vous demande, qu'attendez-vous de cette nouvelle aventure sur M6? Et votre réponse m'a surpris, vous dites, j'attends beaucoup de moi-même, j'espère être à la hauteur.
Oui, bah oui, j'espère être à la hauteur. C'est normal. Franchement, j'ai aucune prétention. J'arrive avec de l'humilité, moi. J'ai envie de dire que bon, bah voilà, je vais servir aujourd'hui, ce soir. C'est l'équipe de France qui est le point central de la soirée. Hein, c'est pas l'émission. Nous, on est là pour accompagner le téléspectateur et pour le servir. Moi, j'espère que d'habitude, j'avais l'habitude de servir des spectateurs sur Canal. Ouais. Là, c'est un nombre un peu plus grand. J'espère pouvoir être à la hauteur et servir de mieux que je peux la France entière.
Cette humilité vous honore et cet esprit universaliste. Vous restez avec nous, Marie Portolano. On a encore plein de questions à vous poser. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de la journaliste et présentatrice Marie Portolano, elle présente le magazine 100% Euro en deux parties. C'est ce soir, avant et après le match France-Allemagne, diffusé par M6 évidemment. La prise d'antenne, c'est à 20h25 et ensuite, on vous retrouvera après le match. Quelle sera la programmation de 100% Euro? La programmation n'est pas encore fixée. Il y a un numéro ce soir, il y aura un numéro pour la finale et sinon?
Et sinon, on va suivre le parcours de l'équipe de France en espérant avoir le plus d'émissions possible.
D'accord.
Donc, en cas de qualification pour les quarts, puis pour les demi, on ajustera notre programmation à ce moment-là.
Double actualité pour vous ces derniers mois, Marie Portolano. Vous avez quitté Canal+ pour M6, je l'ai dit. Et juste avant de quitter la chaîne cryptée, vous avez signé un documentaire qui a causé un petit séisme dans le journalisme sportif et qui a fait parler de lui jusqu'en Australie et aux États-Unis. Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste. C'est le titre documentaire dans lequel une vingtaine de femmes journalistes racontaient le sexisme ambiant, voire le harcèlement, voire les agressions sexuelles dans les rédactions et les chaînes de télévision. Un sondage a montré que 39% des Français ont vu ou entendu parler de ce film. Est-ce que vous attendiez à une telle déflagration ?
Très honnêtement, non, pas du tout. En lançant ce documentaire, j'étais un petit peu... j'avais peur de n'intéresser personne, en fait.
Ce qui est assez incroyable.
Parce que je me disais, c'est très entre soi, c'est très journaliste avec les journalistes, et donc je me disais, bon, les gens dans les rédactions vont peut-être le regarder, mais je pensais pas effectivement que ça allait toucher autant de monde.
Quel rapport avez-vous eu, quel retour pardon avez-vous eu par rapport à ce film? J'ai lu que vous aviez été contacté un peu de partout, de patrons de chaîne jusqu'à des ministres.
Oui, c'est vrai, des gens du gouvernement qui m'ont écrit. J'ai eu beaucoup de réactions aussi sur Twitter, de gens qui ont vu le documentaire. Je pense notamment à la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a tweeté. Enfin voilà, c'était assez hallucinant.
Alors il y a eu une affaire dans l'affaire à cause d'une interview de votre ex-collègue Pierre Ménès, que vous avez réalisé, mais qui n'a pas été gardée au montage, ce qui a été révélé par le site Les Jours, puis qui a été en partie montré dans Touche pas à mon poste. Je passe les étapes parce qu'il y en a beaucoup. En tout cas, le résultat est là. Pierre Ménès n'est plus à l'antenne du Canal Football Club. Comment, vous, personnellement, avez-vous vécu cet épisode ?
Moi, j'ai été assez gênée par la chasse à l'homme. Je déteste ça, en fait. Ce qui m'a gênée, c'est que Pierre devienne le symbole du sexisme en France. Ce qui n'est absolument pas le cas. C'est pas lui qui est responsable de tous les maux. Moi, je l'ai dit, je le répète ici encore, c'est que le système qui a permis ce genre d'agissement pendant des années, c'est ce système-là qu'il faut combattre. C'est pas une personne. Et là, j'ai évidemment peur que Pierre soit l'arbre qui cache la forêt et que beaucoup, beaucoup de gens se cachent derrière Pierre. Voilà.
Sur le site de Canal+, on ne trouve pas le replay de votre documentaire. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé. En revanche, on peut trouver une séquence que vous aviez tournée pour La Boîte Noire, une sorte d'auto-promo. C'est titré « Marie Portolano présente son documentaire « Je ne suis pas une salope ». Extrait.
Alors, ce qui est drôle, c'est que quand je parle de ce documentaire à des amis, par exemple, la plupart me disent « Mais attends, mais tu sais pas, mais moi, dans mon milieu, c'est encore pire. » Donc, évidemment, ce que je veux faire maintenant, c'est faire d'autres documentaires sur d'autres corps de métier. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier le documentaire « Je ne suis pas une salope ». Au revoir.
Ça, c'était sur Canal+. Désormais, vous êtes sur M6. Est-ce que vous allez faire d'autres documentaires sur d'autres corps de métier?
Alors, pourquoi pas? Je suis en train de réfléchir, voilà. Pourquoi pas?
Et au passage, je voudrais saluer deux marques d'élégance. M6 vous a laissé faire la promotion de ce documentaire, qui pourtant venait de Canal+, alors que vous veniez de signer chez eux. Ils vous ont même encouragé à faire la promo. Et de l'autre côté, Canal+, n'a pas saisi le prétexte de votre départ pour M6 pour ne pas diffuser le documentaire. Je voulais que ce soit dit. On va parler d'M6. Vous avez d'autres projets sur M6. Un très gros prime le 30 juin. Ça va s'appeler La soirée extraordinaire. C'est un peu survendeur comme titre. Le sous-titre de l'émission est explicite. La musique, comme vous ne l'avez jamais vu. Racontez le dispositif, Marie Portolano.
Alors, c'est quelque chose qui n'a jamais été vu en France. Donc, c'est pour ça que c'est une soirée extraordinaire. C'est parce que c'est la première fois qu'on voit ce genre de procédé à la télévision. C'est-à-dire que c'est une réalité augmentée. Tout le décor est en réalité augmentée. Donc, les artistes sont plongés dans une réalité virtuelle. Mmh. Et c'est vrai que vraiment... je me suis même moi prise au jeu en regardant les répétitions. C'est hallucinant. On voit vraiment un décor autour de l'artiste. C'est
par
on n'a jamais vu ça.
Qu'est-ce qu'on peut voir par exemple? Qu'est-ce qui vous a bluffé?
Alors il y a une prestation de Vita et Slimane sur un échiquier géant qui est incroyable.
Ouais.
Une prestation de Julien Doré aussi qui chante sur Mars. Kenji Girac qui chante sur une plage.
Ouais.
Mais on a vraiment le sentiment
ça,
qu'ils sont sur la plage.
Kenji sur une plage, on aurait pu le faire. C'est pas comme Julien Doré qui va sur Mars.
Oui, bien sûr, mais on a tellement l'impression qu'il est vraiment en train de chanter sur une plage que c'est hallucinant.
Vous remplacez également Julia Vignali, désormais dans l'émission Qui est le meilleur pâtissier, grosse marque d'M6. Vous avez commencé à tourner en avril, c'est bien ça?
Oui, exactement, je suis dessus d'ailleurs.
Ça se passe comment? Vous êtes fan de pâtisserie, vous êtes bonne cuisinière, comment ça se passe?
Alors moi, c'est drôle parce que j'étais très mauvaise sportive et je suis très mauvaise cuisinière.
Super.
Donc en fait, je travaille dans des domaines que j'adore regarder, que j'adore commenter, mais que je ne sais pas faire. Donc du coup, c'est parfait. Moi, j'écoute Cyril Lignac et Mercotte comme si c'était mes professeurs.
Voilà.
C'est génial.
Et vous avez tout goûté ou pas?
Alors j'essaie de pas tout goûter.
Je me permets de poser la question.
Un petit souci.
Je me permets de poser la question parce que Julia Vigny est venue souvent dans l'émission. Elle a dit qu'il y a un vrai problème dans cette émission, c'est de résister à la qualité de ce qui est préparé.
Alors moi je goûte quand Cyril et Mercotte disent c'est fabuleux. Là je me dis bon je peux pas résister donc j'y vais. Mais bon voilà il y a par exemple la première émission il y a 14 gâteaux
ouais.
Donc et deux fois donc c'est beaucoup, mais
ça fait 28.
Incroyable.
Vous avez seulement 35 ans, Marie Portolano, et dans le portrait que vous avez consacré Libé, c'était en mars dernier, vous dites au sujet de votre âge qu'à 35 ans, vous êtes, je vous cite, jeune, mais bientôt vieille pour la télé. Vous le pensez vraiment ou c'est de la provocation? Qu'est-ce que ça veut dire, vieille pour la télé?
Je ne vois pas ce qu'il y a de provocant d'en dire ça. Vous trouvez pas que c'est difficile de vieillir quand on est animatrice?
Je ne le pense pas, et à 35 ans, pour moi, on est jeune pour la télé.
Ah ben pour moi on est jeune à la télé, mais on commence à se dire que bon attention on vieillit quoi. Moi c'est ça que je déplore aujourd'hui. J'aime voir les gens vieillir à la télévision, que ce soit les hommes ou les femmes.
Et vous regrettez qu'il n'y ait pas assez de femmes d'un certain âge ou à la télévision sur les antennes?
Je le regrette pas, c'est juste que c'est vrai que en fait j'ai dit ça pour accompagner mon changement de vie. Je me disais qu'à 35 ans, c'est le moment pour moi de changer, d'évoluer et de faire d'autres choses. Je me suis dit, bon, si je ne le fais pas à 35 ans, je ne le ferai certainement pas à 40. C'est ça que je voulais dire. Surtout.
Merci beaucoup, Marie Portolano. Je rappelle donc le magazine 100% Euro en deux parties, avant et après le match France-Allemagne. Je vous prédis, sans risque de me tromper, votre record d'audience de votre carrière. Le 30 juin, il y aura la soirée extraordinaire. Culture Média continue. Il y aura Eva Rock, il y aura Chameroy, il y aura la chanteuse Joyce Jonathan qui revient avec les petites jolies choses. Son nouveau single et puis le grand retour du groupe Texas et les sorties cinéma de demain. Quel programme? À tout de suite.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs? Vous êtes féru de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor? Vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires?
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.